Donc vous avez compris que c'était une journée très ritualisée. Hein. Donc moi, j'ai prévu, sur les ordres d'Yves Le Pestipon, j'ai prévu deux questions par intervenant, en fait. Parce qu'il m'a dit deux, c'est entre l'un et le triple, ça a un rapport avec la trinité et l'unicité. Alors moi, j'ai créé deux questions. Quoi. Donc on a le plaisir d'accueillir Violaine Schwartz pour continuer cet après-midi. Et la première question que je voulais te poser, Violaine, c'est par rapport au fait que tu es investi dans la performance, mais que, contrairement à beaucoup et contrairement à Yves, par exemple, tu viens du roman. Et c'est un mouvement relativement récent de la part des gens qui se réclament du roman que de vouloir faire acte de performance. Alors, je sais que l'étiquette roman, puisque c'en est une, elle vient aussi du travail avec ton éditeur, de son point de vue sur ton texte. Mais malgré tout, je crois que vraiment tes textes sont des romans à part entière. Et je me demandais pour toi, quelle était la différence entre l'oralité qui est disponible dans un texte poétique et l'oralité qui est disponible dans un texte romanesque. Oui, on soigne les gens.
En fait, moi, je suis venue à l'écriture, je suis comédienne, et je suis venue à l'écriture en écrivant des pièces pour la radio, donc vraiment des partitions vocales, en fait. Et c'est vrai que mon premier roman, La tête en arrière, au début, je l'avais pensé comme une... Enfin, je voulais en faire une pièce radiophonique, et puis les pages se sont accumulées, et bon, pour finir, c'est devenu ce qu'on appelle un roman, enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt une matière...
Une matière...
sonore, c'est l'histoire d'une chanteuse, donc il y a des vocalises, et puis il y a beaucoup de, comme c'était pensé au départ pour la radio, il y a beaucoup de, oui, d'usage du son, voilà. Le deuxième roman que j'ai écrit, dont je vais lire, en fait, là tout à l'heure, une adaptation, je l'ai montée également au théâtre, donc je vais lire l'adaptation qu'on a fait pour le théâtre, c'est aussi l'histoire d'une chanteuse, voilà. Et c'est sûr que j'ai écrit ce roman en sachant que ça serait monté après au théâtre, donc c'est assez oral aussi. Voilà. Ça s'appelle roman, mais moi je sais pas, ouais.
Oui, c'est un rapport avec le hasard. L'autre question qui me semblait importante par rapport à ton travail, c'est que dans les deux textes, hein, dans ces deux romans, Le vent dans la bouche et puis La tête en arrière, on est comme immergé dans une pensée en train de se faire, dans quelque chose comme un héritage du flux de conscience, de cette forme d'écriture qui s'est développée au début du XXe siècle. Et c'est quelque chose que je constate aussi comme évolution dans la pratique de la performance littéraire. Beaucoup d'auteurs veulent faire entendre des pensées. Ce qui fait acte de parole, ce qui fait action orale, c'est des pensées. Et Cadio, par exemple, au moment de sa consécration à Avignon, Olivier Cadio, que t'as joué par ailleurs, dans une interview pour Télérama, il rappelait qu'une des choses qu'il voulait faire passer avec cette invitation comme ça glorieuse à Avignon, c'est cette idée toute simple que, comme il dit, les idées, c'est du corps. Mmh. Et ton précédent roman, La tête en arrière, tu as écrit « On peut très bien travailler en pensée, travailler la pensée comme un muscle ». Ce qui me semblait assez proche de la marque de Cadio. Alors voilà, je me demandais, est-ce que pour toi, la pensée, le mouvement de pensée, est oral?
Oui, je pense, oui. C'est-à-dire les superpositions,
les embranchements.
Les embranchements, les digressions, comment une pensée amène à une autre pensée, ça crée aussi de la poésie, je pense. Enfin...
Ok, j'ai ma réponse.
Très bien. Violaine, on laisse la place à celui.
Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. Oui, je dirais ça. Debout sur l'estrade, face à la foule emmitouflée, je commencerai comme ça, et en avant la musique. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on chante les yeux... Non. Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. Il était une fois une reine ensevelie loin de tout, au fond d'une ville où nul ne va jamais. Une ville aux portes de Paris pourtant, où s'entassent plusieurs millions de personnes dans l'indifférence générale. Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il était une fois une reine ensevelie loin de tout, indifférence générale, mais aujourd'hui la mémoire reprend le dessus. Vous formez cortège autour de moi, c'est magnifique. Et même vous, Monsieur le Président, vous avez fait le déplacement malgré le froid. Tonnerre d'applaudissements, grappes de journalistes, flash des photographes du monde entier, un moment historique. La première fois que je me suis aventurée ici, il y a bientôt 20 ans, c'était autre chose, croyez-moi. Pas un être vivant à l'horizon dans le silence figé. Pas une mouche. Rien. Un désert. 107 hectares de désert. Un désert que je connais par cœur. J'ai le plan des avenues tatoué dans la tête. Avenue des érables pourpres qui croise l'avenue des acacias communs, qui croise l'avenue transversale, fontaine, qui croise l'avenue des érables planes, qui croise l'avenue des platanes, fontaine, qui croise l'avenue des mûriers blancs, locotechnique, ossuaire, oui, non. L'ossuaire a été supprimé pour des questions d'hygiène. L'ossuaire, c'était avant, ce n'est plus d'actualité. Tout change en permanence et sans prévenir. Sauf elle, là-bas au fond, et moi, ici, devant. Donc, locotechnique, plus d'ossuaire. À gauche, l'avenue des sycomores, puis à droite, l'avenue de la zone, qui croise l'avenue des tilleuls de Hollande, qui croise l'avenue des marronniers d'Inde, fontaine, division militaire, qui croise l'avenue des érables, qui n'est pas la même que celle des érables planes. Attention, piège, c'en est truffé par ici. Il y a des érables planes, et des érables pourpres, et des érables tout courts, et des négondos aussi, et des sycomores encore, qui sont aussi des érables. Beaucoup d'érables, donc. Mais les arbres ne sont pas à proprement parler mon sujet, même si j'ai fini par les aimer à force. C'est juste pour que vous me suiviez, pas à pas, sans remettre en cause mon savoir ni mon sens de l'orientation. Que vous me suiviez dans les bruits des corbeaux, dans les débris des pensées porcelaines, les yeux fermés. Suivez-moi, au cœur de la forêt profonde, dans les étendues noires, les traînées debout. Oui, suivez-moi sans crainte. Et à ce moment-là, je ferai un beau geste théâtral, comme sur la photo de 1923 à l'Olympia. Les mains délicatement posées sur le visage très pâle, la frange de toujours. Vous vous souvenez? Bien sûr que non. C'est pour ça que je suis là et que je m'échine sans relâche. Personne ne se souvient de rien. Nous en étions à... Nous en étions à l'orée de l'avenue des érables tout court, qui croise l'avenue des vernis, fontaine, qui croise l'avenue des noisetiers de Byzance à gauche, toute jusqu'à l'angle de l'avenue des noyers d'Amérique, 23e division, 12e rang, 10e emplacement, c'est là. Tout à fait là. Nous y voilà. Vous l'entendez? Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je? J'ai le cafard, je le sens qui me perce. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, oh et les copains, venez vous rincer la gueule ce soir. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau.
sans lendemain, sans rien qui dure. Voilà ma vie, je suis là tous les jours. Tous les jours. J'assure la permanence, je nettoie la dalle et je m'occupe des fleurs. Et je rédige encore et encore son histoire, le livre sur elle. Et j'envoie des lettres à Monsieur le Président tous les jours. C'est moi qui fais tout dans cette association, un travail de titan, et rien n'avance. Rien n'avance. Il faut voir grand. Viser au plus haut. Monsieur le Président, c'est un scandale. Monsieur le Président, en qualité de présidente de l'association, je me permets d'attirer votre attention présidentielle sur le fait que malgré les nombreux courriers que nous avons bien voulu vous adresser, malgré les pétitions et les innombrables signatures que nous sommes parvenus à réunir dans le milieu artistique comme dans les autres couches de la société, malgré notre ténacité, enfin, qui nous pousse maintenant à vivre à l'extrême limite de nos forces pour sauvegarder malgré tout la mémoire de cette femme et repousser le sable inlassablement, la grande chanteuse Fréhel. Fréhel, alias Pervenche. Oui, comme moi, Monsieur le Président. Vous êtes perspicace comme moi. Il n'y a pas de hasard, nous y reviendrons car tout est là. Alias Madame la Tremblotte, alias Fleur de Ripaille, alias la Reine de la Butte, alias la Petite Princesse des Caniveaux, alias la Môme Caoutchouc, la Môme Catch-Catch, la Liane Rousse, l'inoubliable inoubliée, alias la Sauvageonne, Grande Gueule, Miss Coco et j'en passe, alias Fréhel, n'a toujours pas été rapatriée au cimetière de Montmartre, comme l'exige désespérément son statut et le poids de l'histoire. Elle est enterrée misérablement au cimetière de Pantin, loin de tout. C'est une très grande honte pour la France. Pas d'embardé, de l'ordre. De l'ordre. Constantinople avec Constantinople, l'Olympia avec l'Olympia, la vache noire et blanche au tout début et seulement après la misère à Courbevoie, le père, chauffeur de locomotive, les mains noires de suie, le visage comme un masque quand il rentre le soir. Ne touche pas le chat, tu vas lui mettre de la suie plein la fourrure. Une chanson, et n'oubliez pas le chapeau, mesdames et messieurs, rénovateur faciaux, crème de jouvence, allons vivre campagne, je mettrai tout dans le bon ordre. Je rédigerai l'histoire de sa vie. Je finirai par y arriver. Et tout à coup, on ne parlera plus que d'elle. Biographie à succès, film dans la foulée, Fréhel superstar. Yes. Bon, je reprends tout à zéro depuis le début du commencement. J'ai une minute. L'air défroisse mes poumons. Je hurle dans les flanflans du 14 juillet, qui est en fait le 13 juillet, mais c'est le bal des pompiers quand même. Pétards, musettes, oh la belle bleue. Non. En ce 13 juillet 1891, je me présente de travers. Ma mère crie dans l'accordéon guiré. Mon père, sous les lampions, rêve de devenir pompier. Non. Il boit pour tromper sa peur. Tournée générale, explosion de lumière en contre-jour. Ça y est, je suis père, même si c'est une fille. Plutôt la sécheresse administrative d'un acte civil. Né le 13 juillet 1891, au 2 boulevard Bessières, Paris 17e, fille d'Yves-Marie Boulque et de Marie-Jeanne Daniel. Notée consciencieusement dans le grand registre de la mairie par un employé aviné à 2 jours de la retraite. Une petite fille est née, passons. J'ai 10 jours. Ma mère travaille comme bonne à tout faire. Mon père est cheminot. Ils ont tout juste 18 ans.
pas le temps de s'occuper de moi. On me ramène en Bretagne chez la grand-mère. Hiver triste et doux, vieux langoustier noir, biberon calva, j'attrape le croup. Je m'en sors de justesse. J'ai 4 ans. Mes parents viennent me chercher à Primelle-Trigastel pour m'emmener chez eux à Courbevoie. La vache meugle fort au fond du jardin. Ma grand-mère, une fois encore, supplie ma mère de renoncer à m'emmener. Ah non. Elles boivent toutes les deux un petit coup pour la route. Ça s'éternise. Les mouches bourdonnent dans la cuisine au-dessus de ma tête. J'essaie d'en attraper une. J'essaie de les compter. Est-ce qu'on m'a déjà appris à compter? Comment savoir? Aucune photo d'enfance, brouillard sur la lande. Mais un jour, j'aurai tout pesé, tout envisagé. Chaque mot de mon livre, chaque parcelle de sa vie, ce sera l'hiver. Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. Ah non, 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 inutile. Ils ne feront pas le moindre bruit, on entendra les mouches voler. Non, pas de mouches en hiver. On entendra la glace se fendiller sous les pieds et rien d'autre. L'éclair noir d'un corbeau dans la neige, la danse des flocons dans l'air, un craquement de bois mort, le sang se figer à l'intérieur de mes veines, un froid épouvantable. C'est où là? J'en étais à 4 ans. J'ai 5 ans. Je découvre Paris. Les immeubles pendus au ciel. Les goualeuses au coin des rues. J'apprends leurs chansons à toute berzingue. Je les imite. Un fiacre à lait trottinant, cacaïdia. Hop là! Un fiacre à lait trottinant, jaune avec un cocher banc. Je trouve une paire de chaussons de danse dans une boîte à ordures. Je serai gambilleuse. Non. Chanteuse. Non. Célèbre. Je chante debout sur les tables des bistrots, 2-3 heures du matin, ma mère fait tourner le chapeau, ça rapporte. J'ai 9 ans. Je livre des sacs de sel cérébose fin dans les brasseries parisiennes. Poudre de riz, tabac, je découvre le monde, ça rapporte encore. Non, non, non. J'ai sauté 4 ans, je mélange tout. On me retrouvera dans quelques mois, dans quelques années, parcheminée, emmaillotée, diaphane, une couronne de brouillon sur la tête, et pourtant je suis la présidente. Mais qui s'en soucie? L'association végète. Pour Fréhel, tu parles. On ne peut plus compter sur personne. Il n'arrête pas de mourir ou de tomber malade. Il nous faudrait de nouvelles recrues. Venez prendre la relève, car je suis la seule jeune de l'association. Enfin, jeune, façon de parler. Disons encore en activité. Les autres sont tous à la retraite mortelle, au bord du gouffre, les malheureux. Et ils ont beau prétendre qu'ils auront enfin le temps de se consacrer pleinement à la mission que nous nous sommes fixés depuis le début, à savoir le rapatriement intramuros de Fréhel. Ils ont beau y croire dur comme fer, et faire des plans sur la comète. Très vite, ils trébuchent et se cassent les os. Ils oublient de se laver. Ils commencent à sentir mauvais. Ils perdent la mémoire. Ils rétrécissent leurs gestes, timorés de tout. Ne tentent plus rien de leur journée, soudainement grande ouverte devant eux comme des trous et tombent dedans. Voilà tout. Plus ou moins vite, 3 pelletées de terre est terminée. Ainsi, l'association se dépeuple à vue d'œil, car ce sont tous des bras cassés, des dilettantes, des incapables, des crevards, des boulets. Voilà, je suis la présidente d'une association de boulets. C'est la triste vérité. Mais chaque matin, j'en ai qu'une priorité. Aérer pour chasser l'odeur de vieux. Prendre le large et me frayer un chemin sans faillir parmi les avenues à perte de vue. Encore un chemin. À chaque jour, son nouveau chemin. Et un jour, par l'entrée principale, c'est l'avenue des gardes qui croise l'avenue des sophoras, qui croise l'avenue des marronniers rouges, qui croise l'avenue des peupliers argentés, fontaines, ronds-points, à droite toutes, qui croise l'avenue des merisiers, fontaines à droite, 23e division, c'est là. Et le lendemain, par la porte des petits ponts, c'est l'avenue principale, rond-point, tout droit, rond-point, tout droit, rond-point, tout droit, qui croise l'avenue des Tilleuls de Hollande jusqu'à l'avenue des Noyers d'Amérique, Fontaine à droite, Fontaine, 23e division, c'est là. Et là, enfin, là seulement, le sang recommence à circuler dans mes veines. Mes paupières cessent de trembler. Mon cerveau se dilate. Je m'ouvre par le milieu. Printemps. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre ? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre quand je suis dans tes bras. J'ai 11 ans, des cheveux crasseux, une bouche de trop à nourrir. On me chasse de la maison, je dors sous les ponts, dans la poussière, n'importe où. Plus loin, plus tard, je saute 2 ans, peu importe, je fais ce que je veux, quand je veux. J'ai 14 ans. Je fais du porte-à-porte pour le pharmacien de la rue d'Aboukir, rénovateur faciaux, crème de jouvence. Je prends mon courage à deux mains et je sonne chez la belle Otero, très belle. Elle rit, moi aussi, aux éclats. Je me laisse porter par l'élan, mes jambes suivent. Je connais tous les chemins du 10e arrondissement de Paris. 289 hectares de terrain dont je suis la reine, Lyon rousse, Liane fauve. Passage de l'industrie qui croise la rue du Faubourg Saint-Denis, qui croise la rue des Petites Écuries, qui croise la rue de l'Échiquier, qui croise le boulevard de Strasbourg. Savez-vous, monsieur le président, que boulevard de Strasbourg, maintenant, à l'emplacement de la Scala, il n'y a plus rien. Une bâche. C'est un désastre. Un désastre systématique. Je vous ferai voir plus tard toutes les données que j'ai consignées scrupuleusement, car je ne parle pas dans le vide, tout est consigné, absolument consigné. La Gaîté Rochechouart, un magasin de vêtements. L'ABC, un snack bar. La Pépinière, un parking. Le Casino de Montmartre, une poste. Le Mayol, un centre communautaire yoga salonté. Le Cursal, un cinéma. La Renaissance, un carrefour. L'Univers, un donneur kebab. Les Folies Belleville, un restaurant chinois. La Scala, une bâche. Et aucun panneau nulle part, vous pourrez toujours chercher. À tous les coins de rue, il y a des panneaux pour indiquer l'emplacement des anciennes prisons, ou des anciens lavoirs, ou des anciens hôpitaux, ou des anciens gibets. Mais aucun panneau pour les anciennes salles de spectacle, aucun panneau pour la musique. Ça ne compte pas dans ce pays. Les gibets, oui, la musique, non. Et voilà le résultat, une époque perdue à jamais. Non. Non, car je suis là et tout recommence. J'ai 14 ans à nouveau. Je chante une chanson faite pour durer toujours à la belle Otero, très belle. Elle applaudit. 14 ans encore, 14 et des poussières, j'adore avoir 14 ans. Je signe mon premier contrat pour chanter à l'univers. Je chante très belle dans une robe espagnole que m'a prêtée la belle Otero, très gentille. 8 chansons par représentation, 25 francs par mois, le début de la gloire en Carmencita des Faubourgs. J'avais rêvé d'avoir un homme, un vrai de vrai, bien balancé. Mais je suis chippée pour la pomme d'un avorton complètement jeté. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule. Et malgré qu'il ait bien des défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, mais je l'aime tant et on, c'est un vrai gringalet, oh, s'il est qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal qu'il ait l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, son temps biais, c'est en fait tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a plus un poil sur la tête.
plein sur les gambettes, et celui qui l'a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, mais je l'aime. Si seulement je pouvais avoir 14 ans pour toujours, je deviendrais célèbre, c'est décidé. On ne parlera plus que d'elle grâce à moi. On ne parlera plus que de moi grâce à elle. Monsieur le Président, il suffit d'une signature au bas d'un formulaire. Votre prédécesseur, ou celui d'avant, peu importe, votre prédécesseur l'a bien fait pour la goulue. Pourquoi ne le feriez-vous pas pour elle à votre tour? En outre, nous ne demandons pas non plus le Panthéon. Mais nous continuerons inlassablement tant que vous n'aurez pas pris vos responsabilités. Mais jamais de réponse. Jamais. Le désert. Pas besoin de partir en Égypte pour devenir archéologue. Pour exhumer des momies de princesses qui s'effritent dans l'oubli des caveaux. Il suffit de regarder autour de soi. D'ouvrir les oreilles à la voix toujours debout d'il y a 100 ans. Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. Moi aussi, j'aurai droit au bravo. Foule emmitouflée, discours, micro au vent. Tout est toujours plus près que ce qu'on imaginait autrement. Il y a des trésors à portée de main, à l'ombre des grands arbres, au fond du labyrinthe, et pourquoi pas la fosse commune tant qu'on y est. Faites des enfants. Faites des enfants. Sans enfants, dans ce pays, vous n'êtes rien. Mettez-vous bien ça dans la tête. Rien. Nulle part, on dit. On dit nulle part. Résultat, la goulue, oui. Et elle, non. Elle, toujours non. Et pourquoi? Parce que la goulue était arrière-grand-mère. Et voilà tout. Et emballer, c'est peser. Et même un bâtard, c'est mieux que rien. Du moment qu'à son tour, il fasse une fille, qui à son tour fasse un fils, qui en temps utile se souvient tout à coup de sa mémé poussière et écrit « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de... » Une petite lettre très émouvante. Et Monsieur le Président écrase une larme en apposant sa signature au bas d'un formulaire. Et voilà la goulue aussitôt transférée en grande pompe intramuros dans la liste des célébrités pour touristes dans les guides touristiques. Voilà la goulue tirée d'affaires pour l'éternité. La goulue, oui, et elle, non. Elle, toujours non. J'ai beau m'échiner, c'est non. Non. Donc faites des enfants, au lieu de dormir comme des veaux. Et ensuite, surtout, ne les laissez pas mourir bêtement. Sinon, ça ne compte pas. Ça ne vaut rien. Car elle a eu un fils, Marcel. Mais il est mort de faim, à l'âge de 2 ans, à cause d'une nourrice négligente, assassine. Donc pas d'arrière-petit-fils au final. Juste le panache des vieux érables et le cri des corbeaux. Fréhel, c'est moi. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire aussi, car on ne peut pas toujours avoir 14 ans. Un jour, on en a 27, et c'est l'horreur. J'ai 27 ans. Non. Après 14, 15. Pas d'embarder de l'ordre de l'ordre. Sinon, ça part dans tous les sens et on se prend les pieds dedans. J'ai 15 ans. À la taverne de l'Olympia, maintenant un bistrot crasseux et aucun panneau nulle part, je chante tous les soirs contre 1 litre de café et 2 croissants. Je dors sur les banquettes en moleskine quand les lumières s'éteignent. Je ramasse pièces de monnaie égarées, brins de tabac, rouge à lèvres tombé d'un sac, gants orphelins. Je joue à la duchesse en goguette, la nuit dans les miroirs des water closets. Fini les pieds dans le caniveau. Je deviens mamselle pervenche, le plus joli caprice de Paris. Je chante au Moulin Rouge, au Mayol, au Jardin de Paris, à la Scala, au Bataclan, à l'Ambassadeur, au Concordia, aux Folies Belleville, à la Renaissance, au Casino Montmartre, je deviens célèbre. Vous m'entendez, bande de veaux? Célèbre! Et je vous emmerde. J'ai 20 ans. Le tout Paris au creux de la main et Maurice Chevalier dans la peau. Toutes les nuits, je prends un nouvel amant pour le faire enrager, pour le faire bander de rage, pour m'en protéger. C'est moi qui commande. C'est moi la vedette, c'est moi la présidente. On boit comme des trous, on respire de l'éther. On regarde nos pensées se déployer à l'infini dans l'air confiné de la chambre. On se tape dessus, on se fait des scènes, on s'enlivre l'un de l'autre, toujours en manque, comme des possédés, à se battre dans les draps et faire l'amour jusqu'au bout de quoi. Livide, les pupilles énormes, terrorisées, Maurice claque la porte, sans au revoir ni merci, et part avec Miss Tinguette. Clac ! J'ai 22 ans, je m'en fiche, me fiche de tout, me fiche de la poudre plein les narines, me fiche en l'air. Ça rate. 23 ans, à Noël, je fuis la France douleur à bord de l'Orient Express avec la grande duchesse Anastasia, comme une maman pour moi. Je me fais le chambellan dans le roulis des rails de coke dans les toilettes. 23 ans toujours. Je triomphe à Saint-Pétersbourg. Les nuits blanches dégueulent, les unes dans les autres, ça pue la charogne. L'archiduc machin truc s'écroule à Sarajevo. Je refuse d'être rapatrié en France, douleur, je trace la route jusqu'à Bucarest. Tous les soirs, j'enflamme les théâtres, balcon, poulailler. Je m'envoie en l'air dans les miettes de caviar et les confettis, une jambe par là, la bouche ailleurs. Je baise, monsieur le président. Je baise. À force de baiser, je finis par avoir 25 ans. Et toujours derrière moi, accroché à mes jupes, il y a Eugène Diamandescu. Je vous aime comme un fou. Je peux pas vivre sans vous. Après tout, pourquoi pas? Allons vivre campagne, grand air, tout ça, et la guerre qui gronde de l'autre côté de la frontière. Ok. Je mue fermière. Eugène, Eugène. C'est un officier roumain très beau, mon nouvel homme, c'est Eugène. Maman? Maman, oui, je suis là, mes petits loups, et papa aussi. Eugène, viens un peu par là. Je plante ma fourche dans une botte de foin. Je tape du pied pour effrayer une poule idiote. Je les serre tous les trois contre moi. Nos cheveux se mélangent dans les rires. Ta main se faufile sous l'élastique de ma culotte. Oh, arrête pas devant les enfants. Le soleil est un lampadaire. Vite, embrassons-nous sous chaque lampadaire. Je t'allume, tu m'allumes, je t'allume. J'oublie un peu. Mais non. Eugène est mort avant de faire le moindre bébé. Résultat, pas d'arrière-petit-fils, au final. La guerre arrive en Roumanie. Le général Boboc me demande en mariage. Je lui réponds du tac au tac, Eugène Diamandescu, et je lui colle une gifle, ça va pas la tête. Il apprécie pas le petit général. Il envoie immédiatement Eugène à la frontière hongroise, là où ça canarde. Il tombe dans les premiers, chair à canon. Et les lettres du front qui ont continué à arriver après, qu'il avait écrite à l'avance pour me rassurer, avec les vaches à traire et les poules et les lapins, les lettres d'outre-tombe. Tout va bien, il fait beau, je serai vite rentrée, ma chérie, ton Eugène. Ou, ma chérie, je te lèche les doigts de pied, après la guerre, nous irons Paris, tu chanteras à l'Olympia, prends bien soin ferme en attendant. Oh, mamie, voulez-vous devenir ma femme? Nous ferons grande fête. Je vous aime plus que tout au monde. Comment savoir? Est-ce qu'il parlait seulement français? Il y a beaucoup de trous dans la vie des gens. Beaucoup de peut-être. Il faut admettre qu'on ne saura jamais qu'un dixième, l'écume des choses, le plus spectaculaire. Mais les petits gestes, les journées de rien, les semaines grises, la base qui fait tenir l'ensemble comme le torchis dans les murs, on n'en sait rien de rien. Motus. Un matin, c'est l'armistice. Cap sur la France, faut bien rentrer quand même. J'emporte les lettres d'Eugène serrées dans une boîte à biscuits. Sur la route, je cueille une marguerite, je la glisse entre deux feuillets. Le bateau fait escale à Constantinople, je descends me dégourdir les jambes. Je bois un raki, deux raki, trois raki, dix raki, kikiki. Le bateau m'oublie. J'ai 27 ans en rade à Constantinople. Je rechante un peu dans un cabaret, la voix éteinte. Je finis dans une maison close. Entre deux bites, parfois, je relis mes reliques. La marguerite est en miettes, moi aussi. Savez-vous, monsieur le président, comment je m'appelle ? Je m'appelle Madame Pervenche, parfaitement. Et connaissez-vous son nom à elle, son nom de naissance, son vrai nom, avant Fréhel, avant Pervenche, non ? C'est Marguerite Boulc. Ça vous laisse froid, bien entendu. Un détail, vous vous dites. Mais tout est toujours autrement que ce qu'on croit. Les chemins sont une infinité et le plus intéressant est toujours dans les plis, enseveli sous les sables jaunes dans les traces des serpents. Et donc, venons-en à ceci. Marguerite. Marguerite Boulc, oui, Marguerite. Car je ne voulais pas vous le dire, mais je m'appelle Marguerite, moi aussi. Marguerite Pervenche. Autrement dit, fleur. Fleur. Bien entendu, je le cache soigneusement. Hortensia pissenlit, dahlia coquelicot, mulguet renonque, non. Marguerite Pervenche, oui. Mes parents avaient l'âme bucolique ce jour-là. Ils voulaient faire un peu d'esprit, il faisait beau, c'était le printemps. Je les vois comme si j'y étais. Un dimanche, jeune mariée, tout à coup, ils tombent sur elle. Posée là, au coin d'une rue, coagulée dans son chagrin, un dinosaure, un monument historique. Et elle, une couronne rouillée sur la tête, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, et que l'on chante les yeux dans les yeux. Et toute la rue reprend en cœur, car tout le monde connaît par cœur cette chanson faite pour durer toujours. Et ma mère aussi, avec son ventre énorme et toujours pas de prénom pour moi. J'ai 0 ans et j'entends la voix de Fréhel à travers la peau du ventre tendue comme un tambour. Et Fréhel s'en mêle dans les mots de la chanson qui s'en mêle dans sa vieille tête pleine de pensées porcelaines. Et la couronne tombe par terre, crac. Et Fréhel regarde le public, idiote, cherche dans sa mémoire la suite. Mais c'est le vide total. Ce qu'elle fait là sur cette estrade bancale, elle se le demande. Les mains pendantes le long du corps avec tous ses yeux en face, comme des guirlandes. Et toute la rue lui souffle les paroles, la porte à bout de bras. Et mon père aussi, et ma mère aussi. Et à ce moment-là, ils entendent derrière eux quelqu'un dire à son voisin « Tu sais que son vrai nom, c'est Marguerite Boulc ?» Et mon père et ma mère, dans le soleil, de se dire « Marguerite, tiens, pourquoi pas, c'est joli, c'est gai. » Et voilà l'affaire. Marguerite Pervenche, ceci explique cela. Et peu importe si ça ne colle pas tout à fait dans les dates, Monsieur le Président. Je suis présidente, moi aussi. Je sais compter, comme vous. Et comme vous, je sais manipuler les chiffres quand ça m'arrange. J'ai 60 ans, si ça m'arrange. Je dis ce que je veux, quand je veux. J'avale les années, je les mâche à ma guise ou je les dilate. C'est selon. Et peut-être même que ce n'est pas ça du tout. Non. Peut-être même que c'est moi, un jour, qui ai choisi de m'appeler Marguerite Pervenche, toute seule. Peut-être. J'ai 19 ans, je m'appelle Pierre. Pierre Pervenche. Autrement dit, caillou, fleur. Ça ne me plaît pas. Fleur, fleur, c'est mieux. Donc, Marguerite Pervenche, c'est mieux. Et c'est mon secret. J'ai des poignets plus fins que ceux d'une fille, des boucles fauves. Je danse seule dans ma chambre en écoutant en boucle « Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant ?» Je bande légèrement en bougeant, mais c'était avant. Maintenant, c'est Madame Pervenche pour tout le monde. Motus sur Pierre. Madame Pervenche, point. J'ai 31 ans. 10 kilos de moins sur le canapé du bordel. À Constantinople, mes jambes partent en fumée. Je suis rapatriée en France par le ministère des Affaires étrangères sur un paquebot de la compagnie Paquet, comme un paquet. Je jette par-dessus bord ma réserve de cocaïne. La poudre blanche est avalée par les vagues. Je rentre pour mourir. Mais non. Encore 30 ans à vivre avant la maigre cérémonie au cimetière parisien de Pantin. Monsieur le Président, il faut me rapatrier à nouveau et vite. Le rapatriement, c'est maintenant. Car je tiens à vous informer que le 3 février dernier, il y a donc 6 mois, Monsieur le Président, mais vous avez raté le coche. Du coup, on est obligé de remettre à l'année d'après. Donc, le 3 février 2016, je vous signale que cela fera 55 ans exactement que je suis morte. Non, 65. Je déteste les anniversaires. D'ailleurs, peu importe, personne n'ira faire le calcul, qui irait consulter l'acte de décès. Car gravé dans le marbre de sa tombe, il n'y a pas la moindre date de naissance ni de mort, juste ce nom, Fréhel, qui n'est même pas celui qui se trouve sur mon acte de naissance, qui n'est même pas un nom de femme, qui est le nom d'un cap. Donc, en avant la musique, qui irait vérifier. Dansons au centre des siècles, au milieu des fleurs jetées autour de moi, 50 bouquets, comme à l'Olympia. J'ai 32 ans. Après 10 ans de disparition à l'Est, plusieurs annonces de ma mort dans les journaux et une cure de désintoxication, je remplis l'Olympia. J'ai tellement peur qu'on me pousse sur le plateau. Dans les projecteurs, j'articule « Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. » Un triomphe. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants, dans la tristesse c'est la nuit qui revient. Je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant jadis? Quand j'étais belle, adieu les infidèles, Il songe ne sais où à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rosée pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé dans le jour blême, sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême et fort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aiment tant? J'ai 58 ans. Jamais inscrite comme chanteuse professionnelle, je n'ai aucune retraite. La profession organise 4 galas pour me sortir de l'asile des indigents du Vésinet. C'est la grande famille. Ils sont tous là, à chanter comme des bienheureux. Fernandel, Tino Rossi, Suzy Delair, chorale des fiers d'eux-mêmes. Maurice Chevalier, grand seigneur, me fait un chèque de 200 000 francs. Là, il se fait foutre. Je le verse à la SPA. Avec le reste de l'argent récolté, on me loue un galta pour cuver ma solitude tranquille. Je réintègre mon martre. Mais moi, personne ne chantera pour moi. Je ne suis pas fréelle. Je finirai au Vésinet. Je n'ai qu'une seule demande, monsieur le président. Mettez-moi seulement dans le lit qu'elle avait à l'époque. Je reniflerai ses odeurs de vieille. Je me coulerai dans ses rêveries obscènes et faisandées. L'obsession des nuits blanches de Saint-Pétersbourg, les amants à l'appel, la mort en bandoulière, avant Eugène et les Carpates. J'aurai 23 ans à nouveau, 23 ans, ça recommence. Non. Revenons à notre soixantenaire de l'ordre. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de la laisser pourrir plus longtemps au pied des noisetiers de Byzance. Autrement dit, au pied des noisetiers de Constantinople. Constantinople. Vous savez maintenant ce que ça veut dire. Vous savez l'enfer de Constantinople. 15 grammes de coco par jour. Blattes, trous dans le nez, fissures. Des bites et personne. Ici, 23e division, c'est pareil. Personne. Jamais. Néant. Si. Une fois, j'ai trouvé quelqu'un sur sa tombe. Je me suis cachée derrière une fontaine. Qui c'est, ce type-là? Un cousin issu de Germain, sorti de nulle part? Un descendant de Maurice Chevalier, rongé de remords? Un fanatique des cimetières? Un illuminé gothique? Un conférencier de la chanson réaliste? Comment savoir? Depuis ma cachette, j'ai jeté une poignée de gravier dans sa direction, puis une autre. Un corbeau s'est mis à lui tourner autour de plus en plus près. Le vent a commencé à souffler de plus en plus fort. Le ciel est devenu de plus en plus noir. Le cimetière a sorti ses fantômes. Dégage! Je ne l'ai plus jamais revu. Trop facile de s'agréger après coup. C'est ma tombe à moi, c'est moi qui la décore. Qu'il revienne le jour du rapatriement pour m'applaudir. Tout petit dans la procession, il se coulera dans le flot et il me trouvera magnifique face aux divisions, aux gardes à vous. J'aurai les lèvres tellement gercées que je ne pourrai pas sourire, mais je serai lumineuse sur l'estrade verglacée, touchée par la grâce, emplie de moi. Et je formerai des phrases rythmiquement parfaites. J'agencerai mes mots comme des notes sur une partition. J'inventerai une deuxième voix en contrepoint, puis une troisième, une octave au-dessus, polyphonie de moi. Et je parlerai tout à coup en canon, disant 1000 choses à la fois. Le sourire de la belle Otero, très belle et très gentille. La grand-mère, Primel Trigastel, tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Sans oublier Eugène Diamandescu, mort au combat pour avoir voulu m'épouser. Ça plaira beaucoup. Et je ferai d'une voix suraiguë le chant des clavicules, des omoplates, des rotules esselées, une plainte hystérique avec beaucoup d'écho, un lamento spectral qui vous mettra la chair de poule mieux que le vent glacé, tandis que par en dessous, ma voix de poitrine prendra le relais insensiblement, un ruban de velours, le rapatriement, monsieur le président, le rapatriement, monsieur le président, le rapatriement, monsieur. Et je danserai très lentement la danse de la 23e division dans ma robe princesse fermée dans le dos par une centaine de petits boutons de nacre. Et je m'ouvrirai à tous les hommes, à tous les vents, anémones, pivoines, roses, coquelicots myosotis, boutons d'or, dilapidant mon pollen sur les tombes en ruine comme sur le canapé à Constantinople, les jambes ouvertes. Et les hommes me prendront à tour de rôle, par ici, par là. Ils me cloueront sur le canapé du bordel, encore et encore, me mordant les lèvres des bites, des bites, des bites, et personne. Et à ce moment-là, les vieillards de l'association arriveront par derrière, en renfort. Personne ne les attendait plus, ceux-là. Ils se hisseront laborieusement sur l'estrade, cédant les uns les autres. Et en mineur, ils répéteront mon discours, mais alors n'importe comment. Le rapatriement des bites, le bordel coquelicot, la belle Otero en ruine, tandis que moi, vaille que vaille, je continuerai par-dessus comme je peux. The show must go on, toujours. Et donc j'en étais où? J'ai du givre dans le cerveau, des yeux de nacre. Je vois tout. Maurice Chevalier, je te vois. Te voilà, tu es revenu. T'es beau comme un litre. Mais moi, juste une touche de bleu sur les paupières, mon amour, essayera ni fleurs, ni couronne, au revoir, merci. J'ai un col du fémur, deux tibias, des omoplates, des clavicules, un humérus, des dorsales, des rotules. Je suis au complet. Pierre, Marguerite, Pervenche, Fréhel, c'est moi. Applaudissements.
je fasse tourner ça. Ah d'accord, avec la basse. Il y aura une petite surprise pour la dernière piste, tu verras. Une petite dédicace secrète à Pierre Carsalade.